Comment les entreprises s'adaptent à des employés qui arrivent ici, qui sont demandeurs d'asile? C'est un dossier chaud et on en parle avec Annie Bollard, présidente du réseau Annie RH, notre spécialiste en ressources humaines. Salut Annie!
Bonjour Valérie!
Ben oui, c'est une grande question ça. Comment les entreprises s'adaptent pour recruter et gérer ces employés nouvellement arrivés au pays?
Oui, on s'attend à accueillir plus de 65 000 demandeurs d'asile au Québec en 2024. Du moins, c'est les prévisions de M. Legault. Et les entreprises vont accueillir ces employés-là. Ça requiert des spécificités d'accueillir des demandeurs d'asile. On pourrait croire, Valérie, accueillir des immigrants, c'est accueillir des immigrants, ça va se ressembler. Pas nécessairement. T'sais, si on pense, par exemple, à une famille de Français qui décide d'immigrer ici au Québec, tout est différent. Les conditions de départ, c'est eux qui décident de la date. Ils partent lorsque leur permis de travail leur est octroyé. Souvent, on fait la fête, on quitte. Puis les gens ont toujours derrière la tête, si jamais ça ne fonctionne pas, je pourrais toujours revenir dans mes projets initiaux. Maintenant, nos demandeurs d'asile, eux, c'est une autre réalité. Parce que d'abord, ils partent, mais des fois dans des conditions plus difficiles. Ça ne veut pas dire que mettre la dernière version du CV sur le cloud, c'était la grande priorité là, dans les heures qui ont précédé le départ. Donc, partent dans des situations plus difficiles, arrivent au Canada sans permis de travail. Certains devront attendre environ 9 mois avant de savoir octroyer le droit de travailler. Ça crée donc de la pression financière sur les familles, hein, parce que c'est long, là, cette période-là. Puis aussi, l'option là, de retourner si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas toujours possible. Ça crée donc une dynamique différente. Puis les entreprises accueillent des employés qui sont dans un différent état d'esprit. Là, tu nous demandais, Valérie, comment fait-on pour les recruter?
Ben oui, comment on les rejoint d'abord, ces gens-là?
Oui, et c'est sûr que les centres d'emploi locaux, c'est toujours une bonne source d'information, mais c'est beaucoup par réseau, à travers les familles, à travers les communautés. C'est souvent une façon de les rejoindre. Puis, bon, comme on le disait tantôt, on ne va pas les recruter en disant « envoie-moi ton CV nécessairement, parfois ça ne fonctionnera pas ». Donc, c'est plus, tu sais, raconte-moi ton histoire. On est plus dans l'ouverture, dans l'intérêt à l'autre que dans les dates. Tout ça, de toute façon, on ne pourra pas faire de vérification de référence. Même chose au niveau du contrat d'emploi. Si avec des employés locaux, c'est plutôt simple. Là, on donne le contrat, on signe puis on commence. Bien, là, il va y avoir soit des traducteurs, ça peut être des gens de la même communauté linguistique, mais des employés de l'entreprise. Parfois, c'est l'enfant, le voisin, tu sais, bien. Il va y avoir plus de personnes impliquées lorsqu'il va arriver le temps de signer le contrat d'emploi. Ça fait partie de la réalité là, au niveau du recrutement.
Puis c'est sûr qu'il y a des enjeux de langue, de culture différentes aussi. Comment on les forme et comment on les intègre, ces gens-là, considérant ça?
Ouais, les enjeux linguistiques, les murs de ces entreprises, là, ceux qui accueillent des demandeurs d'asile, sont tapissés d'images. Parce que pour faire la formation, on peut pas juste expliquer puis réexpliquer. Parfois, as-tu compris? Oui, ça veut pas dire que tout va bien fonctionner. Donc, c'est souvent nos murs qui deviennent une continuité des efforts de formation à travers des images, des vidéos en continu. Il y a beaucoup d'éléments aussi portés sur la santé et sécurité au travail. On sait que nous, au Québec, on est dans des sociétés ayant des niveaux les plus élevés d'attente au niveau santé et sécurité au travail. Donc, des fois, ces gens rentrent dans nos entreprises puis commencent par « OK, qu'est-ce que tu veux que je fasse? » On va commencer par voir comment on travaille sécuritairement ici. Ensuite, je te parlerai de tes tâches. Donc, il y a beaucoup de messages à réitérer. C'est certain qu'accueillir des demandeurs d'asile, surtout quand il y a une barrière linguistique, ça demande beaucoup aux équipes, aux gestionnaires. On s'entend, là, les gens sont contents de le faire. On est contents pour voir les postes dans les entreprises. Les gens sont humains, ils sont contents d'accueillir des gens. Mais ça requiert des efforts particuliers. Par exemple, il y a des choses qu'on prend pour acquis, nous, ici, qui ne sont pas nécessairement la même chose pour tout le monde. Donc, il faut nommer l'évidence. Exemple, Valérie, si je t'offre un emploi puis tu l'acceptes, ben je vais m'attendre à ce que tu rentres le lundi matin à l'heure convenue, puis on va commencer comme ça, là.
Oui, pas juste si ça me tente.
Oui, pas juste si ça tente, effectivement. Puis l'autre élément qu'on prendra probablement pas le temps de clarifier, c'est le fait que c'est toi qui es parti au contrat d'emploi. Donc, je m'attends à ce que toi, tu viennes travailler. Pas ta sœur, pas ta grand-mère, pas ton fils, toi. Alors, tu vois, ça, c'est des messages qu'on doit réitérer parce que dans certaines communautés, contrat d'emploi, c'est à la communauté. Là, il y a quelqu'un qui ira travailler, puis le lendemain, ce sera quelqu'un d'autre.
Ouais.
Donc, il faut clarifier des choses ainsi, c'est sûr. On vient toujours chercher dans la patience, dans la... l'humanité des gestionnaires quand on fait ça. Je te partage un autre exemple, Valérie, qui, moi, m'avait beaucoup touchée. Je faisais du coaching avec un gestionnaire. Puis on m'explique la situation suivante. On a accueilli un demandeur d'asile. Lundi, mardi, tout se passe bien. Puis mercredi, la personne arrive 1h30 en retard au travail. Le gestionnaire était prêt à tirer, entre guillemets, à tirer la plug. Et on prend le temps de dire, ben, va donc demander à l'employé pourquoi il est arrivé en retard le matin. Puis l'employé, le demandeur d'asile, explique, d'abord, le matin, pour venir travailler, ça lui prenait 1h30 de marche, puis 1h30 de marche pour le retour le soir.
Oh là là.
Pourquoi en était-il ainsi? Parce qu'il y a un délai entre le moment où on commence à travailler et puis que les sous rentrent dans notre compte de banque pour la première fois. Il y a un bon 2 semaines, parfois 3 semaines. La personne ne pouvait pas acquérir une passe d'autobus. Donc, elle marchait, puis est arrivée sur le mercredi sur son chemin, que la route était barrée, puis elle a dû suivre les chemins de contournement, mais qui ont été constitués pour les voitures, on s'entend.
Mmh.
Et là, c'est long tout ça quand on ne s'y comprend pas trop. Et c'est pour ça que la personne est en retard.
Mais je pense que bien se comprendre des deux côtés, ça va être la base de tout ça. Annie, c'est tout le temps qu'on a, ça a passé super vite, mais communiquer du mieux qu'on peut pour essayer de travailler ensemble, je pense que ça va être ça la clé. Hein?
Absolument. Puis beaucoup d'humanité. Beaucoup de patience, absolument.
Puis je vais prendre quelques secondes en terminant pour te souhaiter un joyeux anniversaire pour ce vendredi.
C'est donc bien fin de penser à ça. Merci, merci, sœur Valérie.
Profites-en bien. Je pense que c'est un chiffre important.
Oui, pas plus important, oui. Le gros 50, oui.
Mais je te souhaite d'être heureuse dans ta nouvelle décennie, Annie, puis merci d'être avec nous chaque semaine.
Ça fait plaisir. Bonne soirée.
Bye-bye.